Du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Souvenir FM. Il est bien midi pile et vous êtes à l'écoute de l'invité du 12-13, votre rendez-vous quotidien pour découvrir celles et ceux qui font vibrer notre région. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ismaël Bourrenan, patient expert et référent en addictologie, et Raphaël Breton du Centre de gestion des Landes de Dax. Plus précisément, je suis ravi de partager cette heure avec vous. Mais tout d'abord, bonjour Ismaël, bonjour Raphaël. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous, messieurs ?
Bonjour, ça va, bonjour à tout le monde.
Ismaël, vous êtes ravi d'être ici.
Super content.
Ça fait un petit moment que vous nous avez sollicité, évidemment. C'était un plaisir de vous recevoir. Raphaël, ça va bien ?
Oui, ça va bien, bonjour.
Oui. Alors, j'ai peut-être dit une erreur, peut-être, vous êtes bien du centre de gestion de Dax.
Centre de gestion des Landes.
Des Landes, et plus précisément à Dax.
Non, plus précisément à Mont-de-Marsan, mais c'est pas grave.
Mais c'est pas à Mince, bon, c'est pas grave. Alors, parce que je sais que c'est différents pôles, etc. Vous nous l'expliquerez durant l'émission. Mais au programme, aujourd'hui, nous plongerons dans votre histoire personnelle. Ismaël, on explorera aussi le rôle de patient référent en addictologie. Mais avant de commencer, faisons un point sur l'actualité locale avec le Flash Info national et international. Ne bougez pas, on revient tout de suite.
Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM.
L'essentiel de l'info, c'est maintenant.
Bonjour à tous. Droit de douane pour Emmanuel Macron, la pause reste fragile. Le président s'est exprimé sur X et voit dans cette suppression partielle des droits de douane une porte ouverte à la négociation. La pause reste fragile selon lui en raison de la permanence des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium et 10% sur tous les autres produits. Il appelle d'ailleurs l'Europe à continuer à négocier pour obtenir un accord équilibré. De son côté, la Chine porte à 125% ses surtaxes sur les produits américains en réponse à Trump. Le pays dénonce une violation grave des règles du commerce international après les taxes imposées sur les produits chinois. Les bourses en Asie ont par ailleurs rechuté aujourd'hui, ce qui est le signe d'une inquiétude face à la guerre commerciale menée par le président américain. Indexation des retraites sur les salaires, la question fait partie de celles qui méritent d'être posées, selon Catherine Vautrin, la ministre des Solidarités. Elle a réagi au rapport de la Cour des comptes qui estime qu'il y a un manque d'équité dans le système des retraites et critique l'indexation des pensions sur l'inflation. Elle a précisé que le changement d'indexation est une décision gouvernementale. Justice, la demande de bracelet électronique de Pierre Palmade est étudiée aujourd'hui. Le comédien a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, en novembre 2024, après le violent accident de la route qu'il a provoqué. Il a fait une demande d'aménagement pour purger la fin de sa peine sous bracelet électronique. L'audience va se dérouler à 14h à huis clos. Diplomatie, Moscou et Washington se sont à nouveau échangés des prisonniers. C'est le deuxième échange depuis le retour de Trump au pouvoir qui a impulsé avec son homologue russe un rapprochement spectaculaire. Le président américain s'est félicité de ce nouvel échange et espère conclure rapidement un accord avec Moscou pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Cinéma, un nouvel Oscar va honorer les cascadeurs. La nouvelle statuette sera remise pour la première fois en 2028 lors de la 100e cérémonie des Oscars. Les hommes et femmes qui doublent les acteurs réclamaient depuis de nombreuses années la création d'un tel prix. Il faudra cependant patienter encore quelques années.
Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13.
Et vous êtes toujours sur Souvenir FM, toujours en compagnie d'Ismaël et de Raphaël pour en apprendre davantage sur votre parcours, Ismaël, et votre engagement. Alors Ismaël, moi j'aurais une première question, je vais m'adresser plutôt à vous dans ce début d'émission. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter votre parcours personnel et ce qui vous a conduit à devenir patient référent en addictologie ?
Donc déjà tout jeune, moi je suis natif de Dax, donc j'habitais au quartier QIS, tout jeune avec les copains, on s'alcoolisait, 15-16 ans. Donc après on faisait la fête gentiment, après je suis parti à l'armée je me suis alcoolisé un peu plus massivement et quand je suis sorti de l'armée je suis rentré dans le monde du travail, donc moi de métier j'étais serveur.
Très bien.
Donc je travaillais pour des groupes VVF, les villages vacances famille, donc saisonnier été comme hiver, l'été je travaillais sur la côte, l'hiver je travaillais à la montagne, donc on s'alcoolisait tous les soirs été hiver. Donc petit à petit, il faut savoir que l'alcool c'est insidieux, ça se met dedans. Moi je pensais, comme on dit toujours, j'arrête quand je veux. Mais non, finalement, ça ne s'arrête pas comme ça. Il faut aller vraiment dans les soins quand on sent qu'on a vraiment un problème. Donc ce qui s'est passé réellement, je l'ai vraiment senti que j'avais vraiment un problème avec l'alcool. C'est en 2007 quand je suis rentré à la ville de Dax. Donc mes horaires avaient changé. Et le matin, quand j'étais en repos, je sentais que j'avais commencé à avoir des tremblements. Et c'est ce qu'on appelle avoir du craving. Donc craving en anglais, c'est un mot qui veut dire envie irrépressible de consommer. Donc vous vous retrouvez à vouloir consommer le matin à 10h du matin, ce qui n'est pas normal. Donc là, vous alcoolisez massivement. Vous allez dans les bars de Dax. Pour moi, c'était pas très difficile puisque je suis d'accord et puis j'étais dans le monde de la restauration. Donc, on s'alcoolise massivement et puis on sait très bien que quand on s'alcoolise comme ça, eh bien, on devient à force pénible et lourd, hein, n'est-ce pas, mesdames ? Les lourds des soirées. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, après, on vous interdit les établissements, que ce soit les bars ou les boîtes de nuit. Donc, vous vous retrouvez chez vous à vous alcooliser. Et puis là, c'est la descente, puisque là, on commence à se désocialiser. Et quand on se désocialise, il n'y a rien de pire que ça. Donc, on s'alcoolise massivement.
Très bien. Quel a été le déclic pour vous, Ismaël ?
Moi, le déclic, alors je vous expliquais, pour avoir un déclic, ça a été très, très long, parce que ce n'est pas simple, parce qu'il faut savoir que la maladie à l'alcool, c'est beaucoup basé sur le déni, le mensonge. Alors, ce n'est pas méchant, mais j'en faisais partie, ce qu'on dit que les alcooliques sont les plus grands menteurs, parce qu'on vous balade tout le temps, le déni. Donc, pour moi, je pensais que je n'étais pas malade, j'arrête quand je veux, et finalement, non. Alors, je peux vous dire que j'ai cassé beaucoup de voitures. J'ai eu la chance, je n'ai jamais touché personne. J'ai eu pas mal de soucis, des bagarres. Quand je sortais, tout ça, ça ne m'a pas arrêté. C'est mon papa qui est décédé maintenant, il y a 3 ans, à l'époque... m'avait appelé parce que malheureusement, quand je m'alcoolisais, je trouvais le manque de mes parents puisqu'ils habitaient sur Toulouse et je les appelais alcoolisés. Puis vous pensez bien qu'ils s'inquiétaient. Donc un jour, mon père m'a appelé, il m'a dit stop, il faut que ça s'arrête. Il pleurait et donc là, j'ai pris les devants et puis je suis parti vers les soins parce que de source sûre, ça fait 10 ans que je travaille sur les addictions, surtout sur l'alcool. Je peux vous dire que si vous n'allez pas vers les soins, on ne s'en sort pas.
Ouais. À quel moment, vous, Ismaël, vous avez décidé de transformer votre expérience personnelle en engagement auprès des autres ?
Mais moi, je me suis soigné. Alors, il faut savoir que les gens ont peur parce que quand on leur parle de soins, ils se disent de suite, il faut que je rentre dans une clinique, un sevrage. Non, moi, je l'ai fait différemment. Je l'ai fait en ambulatoire. C'est-à-dire, j'ai continué à travailler pour ne pas me désocialiser et pour ne pas me retrouver tout seul chez moi. Et puis, je ne vous cache pas que financièrement, c'était un gouffre. Donc j'ai continué à travailler, je me suis soigné, ça m'a mis 3 ans, j'ai changé carrément ma façon de vivre. Donc je me suis mis à marcher, à nager, à faire de la piscine. Après j'ai enlevé mes copains au comptoir. Et je suis rentré au bout de 3 ans, j'ai décidé de rentrer dans une association qui s'appelait Vie Libre, où c'est une association d'anciens buveurs. Donc, de là, j'ai décidé d'aider les gens. Donc, je faisais des groupes de parole à la clinique Maïlis à Naros.
Très bien. Quelles ont été un petit peu les étapes clés de votre rétablissement, du déclic jusqu'à maintenant ? Ça fait combien de temps après que vous êtes sevré ?
Ça fait 12 ans que je suis abstinent parce qu'il faut savoir que quand on est malade d'alcool, on n'est jamais soigné. Donc, on est toujours, malheureusement, comme le cancer, on est en rémission. Donc, les rechutes, bon, moi, ça fait 12 ans, j'ai eu la chance, je n'ai pas rechuté. Et ce qui m'a permis après de monter un projet sur les addictions. Donc j'ai passé un diplôme décerné par l'APHP et c'est ce qui m'a permis aussi de me projeter sur l'avenir. Et ça faisait partie de mes souhaits.
Très bien. Vous êtes désormais patient référent en addictologie. Comment vous pouvez définir un petit peu ce terme ?
Alors France Patient Expert. Alors moi je dépends de l'association qui est basée à Paris.
Très bien.
Alors il faut savoir qu'on n'est que 80 patients experts en France, de chez France Patients Addiction, certifiés par la PHP, par les hôpitaux de Paris. Okay. Donc de là, moi j'avais un projet de le mettre dans la fonction publique, puisque j'étais fonctionnaire, d'aider les agents de la fonction publique. Donc moi je me suis retourné vers le centre de gestion de la fonction publique.
Très bien.
Donc le service médecine, j'aurais amené le projet... Et on en a discuté avec le directeur, M. Savary, Raphaël Breton. Et c'est un projet qui a été validé, mais ça fait 4 ans maintenant que je sensibilise dans les collectivités landaises, dans les mairies landaises et les syndicats mixtes. Et voilà.
Très bien. Donc vous êtes patient référent en termes d'addiction. Qu'est-ce qu'on appelle une addiction ? Comment on pourrait les caractériser ? Il y en a différentes, on sait. Il y en a qui peuvent être plutôt physiques et d'autres un peu plus mentales, morales. Comment vous le définiriez-vous, Ismaël ?
Mais c'est surtout le manque qui se fait, parce que souvent les gens me posent la question, quand c'est qu'on est alcoolique, quand c'est que si, quand c'est que ça. Moi, ce que je dis, c'est surtout le manque, quoi. Quand il y a le manque qui se fait sentir, alors souvent, on le voit, c'est les tremblements. Et quand vous avez ça, c'est ce qui s'est passé. Bon, beaucoup, il y a eu beaucoup, vous doutez bien, de problèmes au niveau du Covid. Évidemment. Quand les gens se sont retrouvés enfermés. Donc, enfermés, nous encore, on a des grands apparts, mais il y a des régions où c'est qu'on l'a vu avec France Patient Expert, où c'est que les gens se retrouvaient enfermés avec les enfants, les gosses et les addictions à l'alcool, quoi. Donc, ça a amené beaucoup de violence. Et pour caractériser vraiment ces addictions, c'est le manque, quoi, les tremblements et ce qui amène après à la violence, quoi.
Ouais. Il y a des addictions qui peuvent être, alors, qui peuvent nuire notamment à la santé. On parlait notamment de drogue, on parlait notamment d'alcool.
Ouais.
Mais d'autres qui sont un peu plus mentales. On parlait d'addictions notamment peut-être aux jeux en ligne, le casino, ce genre de choses.
Ouais, voilà. Ouais, tout à fait.
Comment ça se soigne, ce genre d'addiction?
Ben, c'est plutôt... Alors, il faut savoir que moi, quand j'ai passé mon diplôme, je l'ai passé au XAPA, Centre de soins en addictologie. J'ai fait ma formation à Dax, ce qu'on appelle Caminante la Source. Et après, je sais qu'il y a un service aussi en addicto à l'hôpital de Dax, avec Mme Berterech. Donc là, ça se soigne au niveau de la psychologie. Il y a des psychologues.
Et votre rôle, c'est aussi d'accompagner ces personnes-là.
Nous, notre rôle de patient expert, alors moi, je l'ai dit toujours, attention, je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait des études de médecine. Moi, mon rôle, c'est d'amener les gens vers les soins.
Oui.
Voilà, de par ma propre expérience, c'est discuter avec eux. Alors, ce que je fais toujours, c'est que le premier rendez-vous, je vais toujours avec eux, parce que vous pensez bien que ce n'est pas facile d'aller ou à la clinique ou dans un XAPA, d'aller voir la secrétaire et lui dire « je veux un rendez-vous parce que je suis alcoolique ».
Oui.
Ce n'est pas facile d'en parler parce qu'on est toujours dans le déni.
Il y a une forme de honte un peu.
Mais c'est la honte, la maladie de l'alcool, c'est la honte. Hein.
Oui, donc, beaucoup le ressent comme ça.
Voilà, beaucoup de gens cachent les gens. D'où notre, avec le CDG, d'où ce projet où c'est que j'ai dit, il faut sortir les gens, il ne faut plus laisser les gens alcoolisés sur le lieu de travail. Parce que déjà, ils se mettent en difficulté. Parce qu'il faut savoir que c'est des gens qui partent de chez eux au boulot. Donc s'ils sont alcoolisés, ils sont dangereux sur la route. Ils sont dangereux au boulot.
Oui.
Ils sont dangereux pour leurs collègues. Et après, ils sont dangereux pour leur famille.
Oui.
Et on ne peut pas laisser faire parce que derrière, il y a des familles, il y a des enfants.
Oui.
Et il y a les collègues, il y a l'entreprise, il y a la collectivité. Et ça, on ne peut pas laisser faire. On ne peut plus laisser faire parce que les gens qui, malheureusement, croient bien faire en couvrant le copain, ils ne le couvrent pas, ils ne l'aident pas.
Oui.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie de l'alcool, c'est la plus compliquée à soigner.
Oui.
Une des addictions la plus compliquée. Je ne dis pas que les autres, c'est facile, mais l'alcool, c'est la plus compliquée. D'ailleurs, on le voit partout, il y en a partout.
Évidemment. On va marquer une première pause. Ismaël, Raphaël, on reviendra vers vous en deuxième partie. On parlera un petit peu de ce centre de gestion. Est-ce que ça vous va, messieurs? On écoute un petit peu de musique, notamment un titre que vous nous avez suggéré, Ismaël. Et on revient tout de suite. Ça va?
Ça
allez,
va.
Allez, on fait comme ça. Allez, à tout de suite sur Souvenir FM.
Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine,
Souvenir FM
invite un acteur de votre actualité
dans le
12-13.
Et nous revoilà en direct sur Souvenir FM avec nos invités du jour. Alors on a parlé un petit peu avec Ismaël, notre invité d'addictologie, d'addiction. C'est un patient référent dans les Landes. Mais aujourd'hui je vais m'adresser à un... Alors il est venu accompagné de Raphaël Breton. Raphaël Breton, bonjour. Alors vous êtes notamment du centre de gestion. Alors vous me l'expliquez. Alors c'est une antenne qui est basée à Mont-de-Marsan, mais en fait on ne sait pas trop. Enfin voilà, moi je ne sais pas trop ce qu'est le centre de gestion. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer, Raphaël?
Alors en deux mots, le centre de gestion, c'est une structure effectivement qui est basée à Mont-de-Marsan, mais qui intervient sur l'ensemble du territoire des Landes. Et donc c'est une structure d'aide et d'appui aux collectivités locales. Alors les collectivités locales, c'est les services publics du quotidien, c'est l'urbanisme, c'est les crèches, c'est les routes, c'est la gestion des écoles, des centres de loisirs, etc. Tous les services publics du quotidien qui sont à gérer par les communes et par les communautés de communes. Et donc nous, centre de gestion, on aide ces collectivités-là, en particulier sur le volet juridique et sur le volet statutaire, c'est-à-dire toute la partie gestion, la carrière des agents. Donc on a des services avec des experts qui accompagnent les collectivités sur ces sujets. Et alors ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est qu'on gère aussi la partie santé au travail.
Très bien.
Et donc, le partenariat avec Ismaël s'inscrit dans le cadre du service de médecine. Et nous, on assure en fait la médecine en santé au travail pour le compte des agents publics landais.
Très bien. On en parlait notamment tout à l'heure en off durant l'émission. Nous sommes dans les Landes, plus précisément à Dax. L'été arrive à grands pas et les festivités aussi. On parle notamment des fêtes de Dax et on sait que voilà, vous agissez notamment durant les fêtes de Dax. Qu'est-ce que vous faites pour ces fêtes-là?
Alors on a un service qui propose de la mise à disposition en fait de kits au bénéfice des collectivités pour les points repos. Les collectivités organisent des points repos pour accueillir les personnes, notamment en fin de nuit, mais pas seulement qui se sentent pas bien après notamment la prise d'alcool ou de produits. Et donc nous on a des kits de sensibilisation avec des affiches, la distribution de préservatifs, la distribution, enfin la possibilité de se faire tester avec un éthylotest avant de repartir. Donc voilà, des actions de sensibilisation et de prévention par rapport au comportement à risque.
Très bien. Notamment, on parlait de sensibilisation. Comment se passe cette collaboration avec Ismaël? Alors, comment elle s'est faite, cette collaboration, notamment en termes d'addictologie, Raphaël?
Alors, la collaboration avec Ismaël, elle se fait, je disais, dans le cadre du service médecine, santé au travail. Donc Ismaël, il est détaché par la ville de Dax pour pouvoir intervenir auprès des collectivités landaises. Et ensuite, nous, on a un partenariat avec ces collectivités pour que Ismaël puisse assurer ses vacations, ses interventions auprès de ces collectivités. Donc par exemple, sur une journée, il va faire 4 groupes d'une quinzaine de personnes, avec à chaque fois 2 heures d'intervention pour parler un peu de son parcours, pour expliquer de quoi il retourne, expliquer quel est un peu le schéma dans lequel on se trouve quand on est sous l'emprise de l'alcool, et aussi expliquer comment est-ce qu'on peut s'en sortir, et notamment en restant pas seul.
Évidemment. Ismaël, je reviens vers vous. On a parlé notamment de ces ateliers. Comment ils se caractérisent ces ateliers? Ces ateliers qui durent combien de temps? Qu'est-ce qu'on y fait?
Alors les ateliers, alors on est en partenariat, le CDG est en partenariat avec la MMT. MMT, c'est une mutuelle nationale des territoriaux. Donc la mutuelle fait 1 heure. Donc lui, il est sur les risques routiers, c'est-à-dire il montre un petit diaporama avec les voitures, tout ça, le téléphone, surtout c'est basé sur le téléphone. Et moi, je fais une partie plutôt sur l'addiction, alcool. Donc j'ai un tapis avec 4 paires de lunettes, 2 paires de lunettes alcool, 0,5 et 1,3, oui. Une paire de lunettes cannabis opiacé et une paire de lunettes 24 heures sans dormir. Donc tous les agents passent. Et après, moi, je sensibilise sur mon parcours d'ancien malade d'alcool. Voilà. À la fin de quoi, sans jugement, bien sûr, puisqu'il n'y a pas à juger qui que ce soit. Alors, tout le monde est invité, en principe, dans les collectivités. Ce qu'on demande à la direction, à monsieur le maire ou au DG, c'est que tous les agents participent. C'est-à-dire qu'on parte d'en haut jusqu'en bas, parce qu'il faut savoir que sur les addictions, tout le monde est touché.
Évidemment.
Et comme je disais tout à l'heure, c'est la maladie de la honte. Donc les gens, ils sont en souffrance, ils n'en parlent pas, ils en souffrent. Et puis, ce qu'il faut savoir que dans les addictions, ceux qui en souffrent le plus ou autant, c'est les familles.
C'est l'entourage.
C'est l'entourage, les familles. Donc à partir de là, une fois sensibilisé, on donne un petit flyer. Donc il y a mon numéro de téléphone ou le numéro de téléphone du service prévention du CDG. Il faut savoir qu'en tant que patient expert en addiction, je suis au secret. Donc les personnes peuvent m'appeler. Je reviens sur un truc qui est quand même très important. Il faut savoir que malheureusement, il y a de plus en plus de femmes qui tombent dans les addictions à l'alcool. Et ça, on le cache. Pourquoi? Parce que les femmes s'alcoolisent chez elles. On n'a pas beaucoup de femmes qui vont dans les bars la journée. Elles y vont entre copines le week-end, mais elles s'alcoolisent malheureusement chez elles.
Oui.
Alors il faut savoir que malheureusement, avec la vie qu'on mène actuellement, et comme je dis, je travaille avec des addictologues, mais je travaille aussi avec je connais des copines qui sont caissières et qui m'expliquent la clientèle, souvent beaucoup de femmes, la journée, et elles s'alcoolisent chez elles massivement. Pourquoi? Parce que quand elles ont ce fameux craving, eh bien, elles peuvent s'alcooliser chez elles, et puis chez soi, les doses ne sont plus les mêmes.
Très bien. On parlait notamment de ces fêtes de Dax. Alors notamment, justement, voilà, on arrive clairement dans 2-3 mois à ces fêtes de Dax. Est-ce que vous menez des actions de sensibilisation
Non, moi non.
Durant ces fêtes de Dax
Non. pas avec le CDG, puisque nous, on le fait surtout dans les entreprises, et puis l'été, les gens sont en vacances.
Oui.
Et puis, ça serait beaucoup trop compliqué, je pense, avec... Mais après, moi, je ne porte pas de jugement, comme je dis lors de mes sensibilisations. Je dis aux gens, c'est bien, faites la fête, mais faites attention à votre consommation, et surtout, avec les véhicules.
Oui.
C'est très important. Et là où c'est que je mets le point, parce que moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de ne pas laisser, comme je disais tout à l'heure, les gens arriver alcoolisés sur le lieu de travail. Mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais ils s'alcoolisent le dimanche soir. Ils arrivent souvent le lundi, ils sont encore alcoolisés sur leur lieu de travail. Pourquoi sans stigmatiser, mais je sais de quoi je parle, puisque je suis ancien sportif, même si ce n'était pas de haut niveau, mais la fameuse troisième mi-temps. Et on arrive au boulot, on est encore alcoolisé, malgré avoir pris une douche et deux cafés. Et là, c'est quand même, il faut faire hyper attention, quoi.
Ok, très bien. Merci beaucoup, Ismaël. Merci beaucoup, Raphaël. On va marquer une deuxième pause musicale. On va retrouver la rédaction pour le Flash Info Local. Et on se retrouve juste après. Vous voyez, il est déjà midi et demi. C'est passé très vite. Et on continue à parler un petit peu d'addiction, justement, avec vous. Ça vous va? Allez, on fait comme ça. Allez, à tout de suite sur Souvenir FM.
Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine,
Souvenir FM
invite un acteur de votre actualité
dans le
12-13.
C'était AD et son titre Je me barre. Alors non, on va pas se barrer, on va rester avec nos invités du jour. Vous allez bien, messieurs? Toujours?
Ouais, ça va.
Ça se passe bien. Alors, Ismaël, moi j'avais une petite question, j'y pensais là, comme ça. On parlait notamment justement de votre parcours. Comment se passent un petit peu alors, les étapes clés d'un accompagnement? Imaginons par exemple, voilà, je me rends à un de vos ateliers et en fait il s'avère que voilà, je suis en situation d'addiction. Mais sans trop le savoir, voilà, qu'est-ce que vous allez voir directement? Qu'est-ce que vous allez déceler quand vous allez voir quelqu'un? Vous le sentez? Comment ça se passe à ce niveau-là?
On en discute. Et puis priorité, je lui parle toujours de mon parcours pour le rassurer, pour lui bien lui faire comprendre que je connais la maladie et que je l'ai vécue. Et à partir de là, si la personne est OK, parce que le but, c'est qu'elle sorte du déni.
Oui.
C'est souvent ça. Si une personne sort du déni, ça veut dire qu'elle a compris qu'elle était malade. Et si elle a compris qu'elle était malade, eh bien, c'est qu'elle est prête à se soigner.
Oui.
Donc à partir de là, moi, je lui conseille, selon le lieu où elle habite, qu'on prenne rendez-vous avec un centre de soins en addiction, ou l'hôpital, ou un centre de soins en addiction. Et ce que je fais, ou ce que j'essaye toujours, c'est le premier rendez-vous de l'accompagner, pour
parler.
Pas qu'elle soit toute seule. Parce que c'est très compliqué d'y aller toute seule, dire j'ai un problème avec l'alcool. Et à partir de là, elle fait ses soins. Et quand elle commence ses soins, on reste toujours en contact. On discute. Si elle a un problème de craving ou quoi, elle peut m'appeler. Et ainsi de suite, petit à petit. Et puis après, on la lâche petit à petit.
Oui.
Le tout, c'est surtout de s'occuper.
Oui.
Toujours. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de personnes aussi âgées qui s'alcoolisent. Pourquoi? Parce qu'elles s'ennuient.
Parce que avec l'ennui.
L'ennui. Beaucoup de gens aussi, les accidents de travail.
Oui.
On s'ennuie toute la journée,
on s'isole
à la maison. Ouais, on s'isole parce que c'est quoi que l'alcool? C'est beaucoup de dépression. Hein.
Oui.
C'est la maladie de la dépression, quoi. Une grosse dépression. Donc, à partir de là, alors ça ne veut pas dire qu'on est dépressif, qu'on va être alcoolique, ça n'a rien à voir. Mais par contre, moi, j'ai été dépressif le temps de mon alcoolisation et le fait de m'être soigné, ben, j'en suis sorti. Donc, le but, c'est déjà de se soigner. Pour l'alcool, il faut se soigner. Il n'y a pas 50 solutions et j'ai vu tellement de cas parce que des fois, ça finit très, très, très mal, quoi.
On parlait notamment justement d'alcool, de dépression. Souvent, on comble un petit peu
voilà.
Ce manque, voilà,
voilà, cette dépression. C'est être désinhibé.
Oui,
tout simplement, vous parliez des fêtes de Dax.
Oui.
Malheureusement, on voyait très bien. Moi, je l'ai connu des deux côtés, puisque je l'ai connu du côté festif, je l'ai connu du côté du bar. Donc, vous voyez très bien qu'à midi, 2h, tout le monde va bien. Dès qu'on est alcoolisé, désinhibé. Mais malheureusement, souvent, c'est beaucoup de bagarres, tout ça.
Oui, il y a des comportements déviants.
Voilà, c'est le fait d'être désinhibé. Et puis, comme je dis aux filles, elles se reconnaîtront. Entre copines, il y en a toujours une qui est timide. Dès qu'elle a bu, eh bien, on ne la retient plus, ou elle pleure, ou elle ne la retient plus. Donc, c'est ce qu'on appelle être désinhibé, quoi.
Évidemment. Ismaël, peut-être une question. Est-ce que voilà, vous pourriez peut-être nous partager une expérience marquante où, justement, votre intervention a eu un impact significatif sur quelqu'un?
La plus belle intervention que j'ai faite. Si vous voulez, à l'époque, j'étais. Ce qui est très difficile d'intervenir dans les cliniques, comme je suis intervenu à l'époque, parce qu'il fallait, j'étais pas spécialement prêt à la clinique Maïlis, et je suis tombé sur une dame qui était malade de l'alcool, qui me disait qu'elle était triste parce qu'elle avait des enfants qui étaient petits à l'école, et tout le monde se moquait d'eux à l'école parce qu'ils étaient, parce que leur mère était alcoolique. Et c'est une dame que j'ai revue 3-4 mois après, qui était partie dans les soins. Et justement, elle était avec sa gamine. Elle a dit à sa gamine, tiens, regarde, c'est Ismaël, c'est lui qui a aidé maman. Et la gamine m'a dit, merci, monsieur. Et je peux vous dire qu'à partir de là, ça a été le déclic d'aider les gens, quoi.
Oui, oui, c'est gratifiant. C'est,
voilà. Ah ben, c'est la plus belle expérience que sortir quelqu'un. Vous savez, quand vous allez dans les familles comme ça, parce que moi, j'allais dans les familles pour aider les gens, que vous voyez qu'il y a des gosses, ils ne peuvent plus aller à l'anniversaire parce que le père, il a mis le salaire dans l'alcool, où il y a eu des violences, le frigo est vide. On ne peut pas rester comme ça, quoi, laisser à rien faire. Et puis les gens, ils ne vous en parlent pas si vous n'allez pas vers eux. Ils sont tellement en souffrance. Et puis, comme je vous dis, c'est tellement la vie. On ne va pas vous dire, et je suis cru, mais je vous promets que c'est comme ça. On ne va pas vous dire, on va vous dire j'ai un cancer, mais on ne va pas vous dire je suis alcoolique.
Hein. Oui.
Personne ne vous dira je suis alcoolique. Mais par contre, les gens, ils sont en souffrance. Les familles, les grosses, tout le monde est en souffrance. Et souvent, il y a de la violence derrière et on ne peut pas laisser faire. Quoi.
Évidemment. On parlait notamment de honte. Et moi, je vous posais aussi cette question. Quels sont les défis que vous rencontrez les plus durs quand voilà, vous vous adressez à quelqu'un qui est en, voilà, qui est touché par cette addiction à l'alcoolisme
mais c'est le, ce que je vous dis, c'est le déni. Quoi. Oui. Quand la personne ne le reconnaît pas, ce n'est pas vrai. J'arrête quand je veux. C'est le déni. C'est le plus compliqué, les addictologues vous le disent. Mais de toute façon, la personne, elle va y aller pour vous faire plaisir. Enfin, pas moi personnellement, mais à sa famille. Et puis, en fin de compte, c'est tellement fort l'addiction. Je vous dis qu'elle était tellement compliquée à soigner que les gens, ils vous baladent, en fait. C'est ce que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas méchant. Mais on dit que les alcooliques sont les plus grands menteurs. Moi, j'ai vu des gens, ils vous planquent les bouteilles dans les sous-plafonds, partout.
D'accord. Ah oui, donc...
Mais oui, parce que c'est la maladie. Parce que pourquoi, comme je vous disais, à un moment, ça déclenche le craving. Donc, c'est le manque, les tremblements. Et si vous n'avez pas le produit, vous pouvez vraiment dégoupiller, quoi.
Oui, évidemment. Et comment on arrive à surmonter cette addiction? Comment alors, je suppose que c'est long.
C'est long. Moi, j'ai mis 3 ans. Hein. Je l'ai fait en ambulatoire. J'ai mis 3 ans. Il y a des gens, ils la font par cure. Mais bon, après, chaque personne est différente parce qu'en sortie de cure, souvent, on se retrouve tout seul. Donc, souvent, il peut y avoir justement de la rechute.
Est-ce que naturellement, on peut soigner de cette addiction à l'alcool?
Tout seul? Oui. L'alcool, non.
Non. Voilà, non, il faut forcément être accompagné.
Ouais. Parce que justement, il y a des gens qui font des crises de délirium. Donc, délirium mince. Moi, j'ai vu des gens. Et puis, je ne vous cache pas, je le disais à Raphaël tout à l'heure. Moi, ça fait en 10 ans, j'ai vu 3 personnes qui sont décédées de l'alcool. Hein, parce qu'il faut savoir, c'est une des causes les plus répandues de pendaison.
D'accord.
Parce qu'on est au fond du seau. On est vraiment en dépression. Moi, j'ai vu 2 personnes qui se sont pendues et une qui a fait un coma éthylique. Hein.
Oui.
Et des personnes jeunes.
Oui.
Vous voyez, qui étaient dans le monde du travail, qu'on a vu, qu'on a laissé faire parce qu'on ne savait pas comment faire ou parce qu'on s'en foutait ou peu importe. Mais la personne, elle a pris confiance, ce qui était mon cas. J'arrivais à alcooliser sur le lieu de travail.
Oui.
Alors, j'en veux à personne parce qu'on a peur qu'il y ait derrière une sanction, qu'il y ait ci, qu'il y ait là. Mais on laisse faire, la personne, elle prend confiance et elle s'alcoolise massivement tous les jours. Mais un jour ou l'autre, je peux vous dire, le corps, il lâche. Oui. C'est obligé. S'il n'y a pas un accident avec la voiture, c'est corporel, c'est... Le foie, c'est le cerveau. Il y a 21 maladies avec l'alcool.
Oui. À partir de quel, vous pensez, à partir de quelle étape, à partir de quel moment on peut se considérer comme étant addict à l'alcool?
Moi, quand je vous dis, c'est pas spécialement les quantités, c'est le manque.
Oui.
Quand vous parlez
de tremblements.
Voilà, les tremblements énervés.
Oui.
Moi, j'ai vu des gens, ils partaient jusqu'à Bordeaux, ils venaient en soins, ils habitaient 60 km de Bordeaux, plus d'alcool, plus de produits, obligés la nuit d'aller dans les épiceries de nuit, faire 120 bornes, 60 allées, 60 retours, pour aller chercher de l'alcool dans les épiceries de nuit parce qu'ils étaient en manque.
Oui, donc...
Alors, moi, je le mets à peu près à un niveau moindre, hein. Quelqu'un qui fume la cigarette et qui se retrouve, comme souvent, sans cigarette. Eh bien, c'est une forme de craving, donc on est énervé et l'alcool, par contre, c'est multiplié par 20. Hein.
Oui.
Si on n'a pas le produit, on pète les plombs.
Hein. Oui. Et ça a une influence énorme sur sa vie et son entourage.
Et l'entourage, c'est parce qu'il faut savoir, quand vous avez une personne, moi ça m'a arrivé, sur toutes les histoires qu'on a, il y a la personne qui est au milieu, et au milieu, il y a sa femme, ses gosses, ses parents, les beaux-parents, est-ce qu'il n'y a pas de la violence? Donc pour une personne, ça impacte toute une famille. Hein.
Oui.
Et c'est énorme les dégâts que ça fait. Par contre, le fait d'en parler... Déjà, moi, au mois de mai, dès que j'aurai fini, bon, je suis bientôt à la retraite, le 27 mai, je vais intégrer une clinique à Bénesse et Marraine qui s'appelle Egaldia. Et c'est une structure qui fait partie de la clinique AMA à Bayonne. Et donc, je travaillerai une fois par mois là-bas pour faire des groupes de parole pour les gens malades. Mais on va instaurer, ça va être une première, les groupes de parole pour les familles.
D'accord.
Voilà, pour les aider parce que les pauvres, ils sont démunis face à l'alcool, ils ne savent plus quoi faire. Alors souvent, c'est les femmes, le soir, moi je suis tombé sur des dames qui étaient en réunion, elles me disaient « j'y suis plus ». Parce que je pense ce soir, quand il va aller chercher les gosses à l'école, s'il va être alcoolisé, comment ça va être ? Il va y avoir des conflits, il va y avoir les enfants. Donc, je peux vous dire, les gens sont perturbés. Quoi.
C'est vrai que le groupe de parole, on identifie ça beaucoup. Aux États-Unis, je sais que ça existe beaucoup, des groupes de parole, ouais. Voilà, où des personnes s'ouvrent et discutent, etc.
Ouais.
Et c'est un dispositif qui commence à marcher en France, c'est ça ?
Oui, ouais, moi, je sais que quand les sensibilisations qu'on fait avec... le CDG, le centre de gestion, donc c'est super important parce que bon, pour l'instant, il faut savoir qu'on a sensibilisé 3500 agents.
Très bien.
Donc ça fait une vingtaine de mairies avec les syndicats mixtes des eaux, syndicats des ordures. Et il y a énormément de demandes. Pourquoi ? Parce que les gens, ils étaient en attente. Et depuis qu'on a lancé le projet, je peux vous dire, Raphaël vous le confirmera, on a beaucoup, beaucoup de demandes. Parce que pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment un réel problème.
Oui.
Moi, quand je vais dans les collectivités où je rencontre les DG ou les DRH, je peux vous dire, ils sont démunis par rapport à ça. Oui. Parce qu'il y a la personne, il y a les collègues, on ne peut pas laisser faire.
Oui.
S'il y a un accident, il y a les familles, il y a la collectivité, ça engendre beaucoup de choses. Quoi.
Oui. Oui, il n'y a pas que la personne qui s'alcoolise, qui est touchée. Ça touche évidemment
mais exactement
un grand nombre de personnes. Ismaël et Raphaël, on va marquer une dernière pause musicale. On va écouter un morceau d'Earth, Wind & Fire. Et on se retrouve juste après, on conclura cette émission ensemble. Est-ce que ça va, messieurs ? Allez, à tout de suite. Sauf souvenir FM.
Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM.
C'était l'excellentissime September du groupe Earth, Wind & Fire. Nous sommes de retour sur Souvenir FM. On conclut cette émission avec Ismaël et Raphaël. On a parlé un petit peu d'addiction, on a parlé un petit peu d'alcoolisme. Ismaël, vous êtes patient référent dans les Landes. Il me semble que vous avez un rendez-vous. Vous nous donnez rendez-vous le 25 avril à la salle Félix Anodin. Je ne me trompe pas, Ismaël ?
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que vous allez y faire ce 25 avril, Ismaël ?
Alors, il y aura, c'est le printemps...
citoyen.
Citoyen, voilà, c'est ça. Donc, il y aura très certainement un groupe de parole.
Très bien.
Tout simplement, avec les citoyens. Je pense qu'il y aura un médecin, moi-même. Après, je ne suis pas encore sûr de tous les invités, mais ça nous permettra de dialoguer avec les citoyens de Saint-Paul.
Toujours dans la sensibilisation.
Voilà, sur les questions d'addiction.
Très bien. Vous aviez aussi quelques remerciements à faire.
Oui, beaucoup, parce qu'actuellement, c'est une première qu'on a fait avec Stéphanie Barnex et le centre de gestion, où c'est qu'on sensibilise tous les maîtres nageurs des Landes. Donc on a commencé par les chefs de poste et on continuera avec les MNS.
Très bien.
D'accord. Voilà. Après, donc on a fait, enfin moi j'ai fait aussi l'école infirmière à Bayonne.
Très bien.
Il y a eu une demande, les deuxièmes années école infirmière. Donc ça a été super intéressant pour nos soignants de demain, qui sachent de quoi ils parlent au niveau des addictions.
Très bien.
Voilà. Donc moi j'en profite pour remercier monsieur le maire de Dax, monsieur Dubois, de m'avoir permis ce détachement vers le CDG. Et je le remercie et de m'avoir permis de pouvoir accéder justement à ces sensibilisations sur les détachements.
Très bien.
Ok, je voulais remercier aussi tous les agents de la ville de Dax et du Grand Dax. Remercier mes collègues du Sablard avec qui je travaille parce que je m'en vais bientôt à la retraite. Donc Cyril, Poupon, Michel et Le Grand. Voilà. Et remercier le CDG 40 de m'avoir fait confiance et les entreprises avec qui je travaille, Gascogne, le groupe Gascogne. Là, je travaille avec eux dans le privé. C'est que je fais des sensibilisations pour tous les agents.
Très bien.
Voilà ce que je voulais dire. Et puis, merci à tout le monde.
Il n'y a pas de souci, c'était un plaisir. Moi, j'aurais une dernière question pour vous, messieurs. Raphaël, on ne vous a pas trop sollicité durant l'émission. Vous nous avez un peu présenté ce centre de gestion que j'ignorais, que je ne connaissais pas. Mais merci à vous de nous l'avoir décrit. Est-ce que vous auriez peut-être un message que vous souhaiteriez transmettre à des personnes qui sont en situation d'addiction et qui, même à leurs proches, un message ? Qu'est-ce que vous leur diriez peut-être, Ismaël ?
Moi, je leur dirais d'en parler. Je sais que ce n'est pas facile, il y a le déni. Mais si on n'en parle pas, on s'en sort pas. Il n'y a pas 50 solutions. Il y a des centres de soins qui sont très bien. Après, comme je dis aux gens, leur peur, c'est toujours se dire je vais aller en clinique. Non, on peut le faire en ambulatoire. Moi, je l'ai fait en ambulatoire. Et ce que je peux vous dire de source sûre, je vous promets que je suis le mec le plus heureux.
Oui.
Parce que j'en ai tellement souffert, j'en ai fait souffrir ma famille, mes amis, mes collègues que j'embrasse et que même si 10 ans après, je leur dis excusez-moi. Mais non, ça vaut le coup. Je vous promets que ça vaut le coup.
Très bien, ça change la vie. Qu'est-ce que vous diriez peut-être, Raphaël, vous, petit message ?
Moi, pour être simple, l'alcool, c'est une maladie. Oui. C'est une maladie dont on ne sort pas tout seul. Et on a tous un rôle à jouer.
Oui.
Et donc, y compris en milieu de travail, les collègues, la hiérarchie, quand on a connaissance d'une situation comme celle-là, on ne peut pas fermer les yeux. Et on a des choses à faire, chacun à notre place.
Très bien. Donc, il est temps d'agir et justement de ne plus rester dans le déni. Merci beaucoup à vous,
messieurs. Merci à vous.
C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup.
Et c'est réciproque.
Et on vous recevra peut-être prochainement. Hein, qui sait, voilà, si vous avez d'autres
événements. Et puis, amusez-vous bien. Faites la fête avec modération. Et surtout, attention en voiture.
Très bien. C'est important de le souligner. Merci à vous, messieurs.
Ouais.
C'était un plaisir de vous recevoir. Merci.
C'est gentil. Merci.
Le temps passe vite et il est déjà l'heure de conclure cette belle émission. Avant de nous quitter, tiens à vous informer que votre radio prendra une pause pendant 2 semaines pour souffler un peu. Mais rassurez-vous, il y aura toujours de la musique. En continu, nous nous retrouverons le 28 avril pour le retour de votre émission, l'invité du 12-13. Restez à l'écoute de Souvenir FM. Dans quelques minutes, retrouvez le Flash Info national et international, suivi d'une session musicale avec Christophe jusqu'à 16h. Et bien sûr, ne manquez pas notre rendez-vous avec le TUT local à 18h30. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Passez un excellent week-end à l'écoute de Souvenir FM. À T-Shirts.
L'invité du 12-13, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, sur Souvenir FM.